Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal, Jocelyne Moussa Oponde.
Poursuite aujourd'hui à Nairobi des consultations entre les groupes armés locaux de la RDC et les experts de la présidence congolaise. Ces consultations se tiennent désormais en l'absence du M23. L'adhésion de la RDC à l'EAC, une opportunité pour les opérateurs économiques du Sud Kivu d'être compétitifs au niveau régional. Mais l'État congolais doit prendre des mesures pour aider ses entreprises à faire face à la concurrence. C'est l'avis du nouveau président provincial de la FEC Sud Kivu. Notre invitée est Tina Salama, la porte-parole adjointe du chef de l'État reviendra sur les consultations de Nairobi dans le cadre du processus de pacification de l'Est de la RDC. Bonjour à tous. Poursuite, c'est lundi à Nairobi, au Kenya, des consultations entre des groupes armés locaux de la RDC et les experts de la présidence congolaise. Ces consultations se tiennent en présence des envoyés spéciaux de l'ONU, des États-Unis d'Amérique, de la France ainsi que des pays membres de l'EAC. La séance d'hier dimanche s'est tenue sans la présence du M23 à Makenga. La mise à l'écart de ce mouvement armé était une exigence posée depuis samedi soir par les émissaires du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en raison de la reprise des combats par ce groupe armé dans le Nord Kivu. Selon des sources proches des experts de la RDC, hier, dimanche, certains groupes armés du Nord Kivu ont rejoint à la nuit la capitale kényane, tandis que les représentants de certains groupes armés du Sud Kivu étaient, eux, déjà arrivés samedi soir à Nairobi. Il s'agit essentiellement de groupes actifs dans le Sud Kivu. La facilitation kényane a confirmé l'arrivée au courant de la journée d'hier dimanche de plusieurs autres groupes armés opérant dans l'Ituri, déjà pris en charge du point de vue de la logistique par l'organisation. Mais qui sont ces représentants des groupes armés du Nord Kivu qui ont rejoint Nairobi hier dimanche? Plus de détails avec vous, Sifa Maguru, depuis la ville de Goma.
D'après des sources proches des experts de la RDC aux consultations, les représentants des groupes armés du Nord Kivu ont quitté Goma pour Nairobi dimanche dans l'après-midi. Nous pouvons citer entre autres délégués Désiré Ngabo Kisuba et Fidel Mapenzi Mike pour le compte du NDC rénové, Janvier Kalahiri lui-même, chef du groupe armé APCLS, actif dans les Masisi, accompagné de Elia Mwango et Mapenzi Leonard. Côté Rutshuru, on note Kakule Kasivi Jetem, chef du groupe armée AFRC, TM et Kakule Sikuli Luther ainsi que Kasereka Siagalira Levis pour les comptes du APP Kabidon de Lubero. Rappelons qu'en plus des experts du gouvernement, on note également la présence de 6 observateurs Goma Sifamaguru Radio Kapi.
Et qu'en est-il de la délégation des représentants des groupes armés du Sud Kivu, Fiston Goma?
Parmi les 6 nouveaux arrivants, l'on retrouve le colonel Olivier Mourinda Ngabo du groupe Gumino, de Mungam Chaleke Justin, coordonnateur du FPDC du groupe Ebuela Mutetezi, de Matendo Bushiri de UPSP du groupe René Itongwa et Alida, de Lewis Kibuki de UCL du groupe Kijangala, ainsi que de Kamasanda Kise Welcome, coordonnateur du groupe Turwaneo de Makanika. D'après des sources proches de la délégation gouvernementale à Nairobi, les 6 représentants des groupes armés du Sud Kivu rejoignent d'autres délégués, dont ceux du groupe Android de Turwaneo de Gakunzi. Yakutumba, quant à lui, vient de désister à la dernière minute. Il avait reçu l'invitation et avait exigé et obtenu le versement des frais de voyage pour un vol propre à lui que de prendre les vols collectifs. Son porte-parole fait savoir que Yakutumba ne peut pas se mettre aux côtés de M23, considéré comme un groupe étranger, pour négocier avec Kinshasa. Pendant ces temps ici, sur le terrain, la situation sécuritaire reste tendue dans les moyens et au plateau d'Uvira et Fizi. Des violents combats ont été signalés vendredi dans le village Masango, Muramvya et les environs. Des combats qui ont fait des morts et opposent le groupe Gumino aux miliciens Bilose Bishambuke. D'Uvira Fistongo Mamayabala, Radio Kapi.
De son côté, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué les efforts du président kényan Uhuru Kenyatta et de la communauté est-africaine pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement en RDC. Antonio Guterres a dit prendre acte de l'engagement pris par les dirigeants des pays membres de l'EAC. l'EAC, à l'issue du conclave de la semaine dernière, à soutenir la tentative de Kinshasa d'apporter la stabilité à l'intérieur de ses frontières. Ils ont décidé d'établir une force conjointe pour combattre les groupes armés et ont invité les dirigeants régionaux, l'Union africaine et l'ONU à soutenir l'initiative. Le secrétaire général de l'ONU a exhorté aussi les groupes armés locaux en RDC à participer sans condition au processus politique et tous les groupes armés étrangers à désarmer et à retourner sans condition et immédiatement dans leur pays d'origine respectifs. Pendant ce temps, en Ituri, des affrontements ont opposé hier dimanche des rebelles de la CODECO URDPC au casque bleu de la MONUSCO dans la zone d'Amé, dans les territoires de Djougou. Selon le responsable de l'information publique de la MONUSCO en Ituri, il s'agit d'une opération de la mission onusienne menée conjointement avec le 3201e régiment des FRDC contre un camp de la CODECO à Demou. L'objectif de cette opération était de déloger ces miliciens de cette localité. Aucun bilan humain n'est disponible pour l'instant. Cependant, un déplacement massif de la population vers les zones plus sûres a été observé. Les détails avec Clarisse Zindoula.
Cette opération dénommée Opération Sake a été un succès selon la MONUSCO. Située à une dizaine de kilomètres d'Amé, ce camp était l'un des plus grands centres de regroupement des miliciens de la CODECO qui opèrent dans la région. C'est d'ici qu'ils planifient les attaques contre les populations civiles. Le responsable de l'information publique de la MONUSCO en Ituri affirme que ce camp a été complètement incendié, ce qui a poussé les miliciens à fuir loin vers les collines environnantes. Pour l'instant, le calme est revenu dans la zone, affirme Jean-Tobi Okala. Cependant, les populations restent cachées dans leur milieu de refuge. La MONUSCO et ses partenaires des FRDC les ont toutefois rassurés de leur mission qui est de les protéger contre ces miliciens. Jean-Tobi Okala.
Le camp a été incendié, complètement démantelé, ce qui a poussé les miliciens à fuir la zone pour aller se réfugier très loin vers les collines voisines. Naturellement, cette opération a aussi provoqué un déplacement des populations qui se sont dirigées vers des endroits jugés plus sûrs. Mais la MONUSCO les a rassurés parce que pour nous, il s'agit d'une opération de protection des civils.
Signalons que cette opération intervient 3 semaines après celle lancée contre un autre camp de cette même milice de la CODECO à Bali, cette fois et toujours dans le territoire de Djougou. Opération au cours de laquelle un casque bleu népalais de la MONUSCO avait trouvé la mort. Bounia Clarisse Zindoula, Radio Okapi.
Table ronde interprovinciale sur la cohabitation pacifique entre les peuples de l'ex-Katanga et de l'ex-Kassai au niveau de la province du Kassai oriental. Les acteurs politiques ainsi que ceux de la société civile souhaitent que les recommandations qui seront formulées à l'issue de ces travaux permettent de renforcer d'une manière durable la paix et le vivre ensemble entre les deux peuples. Des explications avec Esther Dalafina.
Depuis le lancement des travaux de la table ronde à Lubumbashi, certaines organisations de la société civile du Kassai oriental apprécient l'attitude du gouvernement qui a pris la balle au bon. Pour Rachel Kapinga, coordonnatrice provinciale de la nouvelle société civile, le gouvernement doit continuer la sensibilisation des populations sur le vivre ensemble.
Nous leur demandons de penser toujours à de tels forums pour une paix durable. Nous sommes tous Congolais, nous sommes appelés à vivre ensemble et à cultiver la paix, rien que la paix.
Maître Alexis Kaswaswa, président provincial honoraire de la société civile Force Vive, souhaite qu'on approfondisse la question pour mettre définitivement fin au climat de tension et de méfiance entre communautés.
Nous souhaitons vraiment que ça réussisse, qu'on approfondisse la question. Il ne faut pas aller à la surface. Qu'on voit quelles sont les causes profondes. Qu'est-ce qui fait que ce qui est arrivé en 90 soit revenu, était précédé par ce qui était arrivé en 60, 30 ans après 2020. Ça revient, ça risque de revenir encore en 2050 et puis en 2080. Nous souhaitons bonne chance à ces travaux. Il faut que les gens vivent en paix.
Signalons que quelques acteurs de la société civile du Kassai oriental déplorent leur absence à cette table ronde de Lubumbashi. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
L'adhésion de la RDC au sein de l'EAC est une opportunité pour les opérateurs économiques du Sud qui voudraient être compétitifs au niveau régional, mais cela demandera de l'État congolais qu'il prenne des mesures de soutien économique, pour aider ces entreprises à faire face à la concurrence des pays voisins. Déclaration du nouveau président provincial de la FEC Sud Kivu le week-end à Bukavu. Joyeux Baïdika est au micro de Cynthia Bachizi.
Aujourd'hui, le monde est ouvert. On ne peut pas travailler dans un environnement fermé. Et nous devons maintenant penser, nous les opérateurs économiques du Sud Kivu, de nous mettre en compétition, de nous mettre en condition de manière à prendre une place de choix au niveau de la région. Parce que nous savons que nous sommes entourés par deux pays bien organisés, avec une fiscalité attrayante. Vous connaissez ce que nous vivons ici avec notre fiscalité. Et je pense qu'il serait mieux de voir comment travailler avec les autorités du pays, les autorités de la province, afin qu'ils puissent aussi nous mettre dans des conditions de concurrence.
Ça serait quoi, avoir certaines exonérations ou subventions dans le secteur agricole?
Bon, exonérations, subventions, bon, je ne sais pas le dire maintenant. Je sais que l'agriculture partout au monde, elle a toujours été subventionnée. Les conditions dans lesquelles nous travaillons pour le moment ne nous permettent pas de produire et de nous mettre en compétition avec le pays voisin.
Notez que Joyeux Baïdika a été élu samedi à Bukavu par les membres de l'Assemblée générale et élective de la FEC Sud Kivu. Il sera secondé par 4 vice-présidents et ce pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Vous l'avez suivi sur nos antennes, une délégation de hauts cadres des Nations Unies séjourne en RDC depuis mardi dernier. Il s'agit des membres de la 5e commission de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est cette composante qui traite toutes les questions administratives et budgétaires de l'ONU. Au programme de leur visite figurent des rencontres avec les autorités politico-sécuritaires congolaises à travers le pays. Cynthia Bachizi Nabizana, dites-nous, c'est quoi la 5e commission de l'Assemblée générale et quel est son rôle?
Eh bien, la 5e commission, c'est un peu l'équivalent d'un ministère de budget. Constitué d'un panel d'experts, cette composante élabore annuellement des projets de rapports budgétaires adressés à l'Assemblée générale de l'ONU. C'est cet organe composé de tous les pays membres de l'ONU qui approuve en définitive le budget de fonctionnement de l'organisation, mais aussi celui des opérations de maintien de la paix. Le tout en fonction du mandat fixé par le Conseil de sécurité. Il faut donc préciser que ce ne sont pas les responsables au niveau local qui décident du budget d'une opération de maintien de la paix. Et c'est en cela que la visite des membres de la 5e commission est stratégique, en ce sens qu'il faudra ainsi évaluer les défis financiers, administratifs, logistiques auxquels fait face la MONUSCO pour atteindre ses objectifs. Bien évidemment, au regard du contexte actuel marqué par le processus de retrait de la MONUSCO dans le Tanganyika, où les agences onusiennes devront prendre le relais. Ensuite, dans le Nord Kivu, pour jauger les efforts qui restent encore à déployer pour le retour de la paix dans la partie est du pays. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au moins 160 personnes ont été tuées hier dimanche dans des violences au Darfour, région de l'ouest du Soudan, ravagée depuis des décennies par la guerre. Ces violences ont débuté à Krink, à quelques 80 km d'El Geneina, la capitale du Darfour ouest, vendredi, journée durant laquelle 8 personnes ont été tuées. Des hommes armés de la tribu arabe avaient attaqué des villages de la tribu africaine Massalite en représailles à la mort des 2 de ses membres. Emmanuel Macron a été réélu président de la République hier dimanche en obtenant 58,55% des suffrages face à la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, qui a obtenu 41,45%. Suite à la réélection d'Emmanuel Macron, plusieurs capitales africaines ont réagi, saluant pour la plupart la victoire du président français. Parmi les premiers à avoir réagi, le président sénégalais Macky Sall l'a félicité chaleureusement pour sa victoire, lui adressant ses meilleurs vœux des succès dans l'exercice de son second mandat. Le président nigérien Mohamed Bazoum a également salué la brillante réélection de son homologue français. Son expérience des sujets internationaux en général et du Sahel en particulier en fait un partenaire précieux pour nous dans notre combat contre le terrorisme, a-t-il expliqué dans un tweet.
L'invité.
Notre invitée, c'est Madame Tina Salama, porte-parole adjointe du chef de l'État. Elle nous parle des consultations entamées le vendredi à Nairobi, au Kenya, entre les émissaires de la présidence congolaise et les groupes armés dans le cadre du processus des pacifications de l'Est de la RDC. On écoute Tina Salama qui s'entretient au téléphone avec Piero Elamiji.
Madame Tina Salama, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierre Lamégie.
Il y a eu ouverture depuis vendredi des consultations à Nairobi entre la RDC et les groupes armés. De qui vient l'initiative et de quoi s'agit-il exactement?
L'initiative, en tout cas, vient du président de la République, monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et l'initiative est soutenue, en tout cas, par les quatre autres chefs d'État qui ont participé au dernier sommet du 21 avril de Nairobi. Alors, on va quand même rappeler que le président avait tenu à dire qu'en adhérant à la communauté la dernière fois qu'il y était, il a dit que le peuple congolais ne peut pas seulement se contenter des bénéfices d'un commerce intra-communautaire, mais que le peuple congolais aspire d'abord et surtout à entretenir des relations fondées sur la paix et la sécurité de tous. Et que le peuple congolais renouvelait son engagement légendaire en faveur d'une politique de bon voisinage et attend des autres peuples de la communauté le même engagement pour la paix et la sécurité de tous. Lors du dernier sommet également, il faut le rappeler, il a été décidé de mettre en place deux volets. Donc il y a le volet politique, on va dire, qui est entamé en tout cas sous la direction du président Uhuru Kenyatta pour faciliter les consultations entreprendre entre la RDC et les groupes armés. Et bien évidemment, cet autre volet militaire qui est sous la direction, le commandement de la RDC, parce que si jamais cette force devrait être déployée, c'est sur les sols congolais et qu'il est normal que ce soit la RDC qui puisse donner les commandements.
Qui sont concernés par ces consultations ou autrement parlant? Quels sont les partis qui sont en présence? Y a-t-il un médiateur?
Donc ce sont les groupes armés en RDC locaux qui doivent participer à ce processus politique qui vise bien évidemment à trouver une solution pacifique, on va dire définitive également dans la partie est du pays et donc qui n'obtempèrent pas et seront sous le feu ou gérés militairement, on va dire, par la force régionale. Donc c'est un processus qui concerne tout d'abord les groupes armés locaux opérant encore en RDC. Alors vous avez parlé bien évidemment d'un médiateur, mais il n'y a pas un médiateur comme tel. Je rappelle encore une fois que la facilitation et les Kenyans, parce que le volet politique a été confié au Kenya, et c'est bien évidemment, c'est pour ça que ça se passe chez lui, ça se passe à Nairobi, et c'est encore les raisons pour lesquelles c'est le Kenya qui nous appuie sur le plan logistique. Il y a un secrétariat qui a été mis en place, qui devrait superviser la mise en œuvre des résolutions du sommet, donc des envoyés spéciaux, des parties d'autres, partie congolaise, partie kenyane, mais pour l'instant, il y a des experts militaires congolais qui sont sur place, il y a des envoyés spéciaux du président qui sont sur place. Voilà, ils ne sont pas les seuls. Il y a des représentants des pays qui étaient présents lors du dernier sommet. Si on doit parler d'autres organisations internationales ou observateurs, il y a le bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies qui s'est représenté. Il y a également les États-Unis qui ont accepté de nous accompagner, la France, la Commission de l'Union africaine, la CIRGL, et d'autres organisations qui sont là comme observateurs.
L'appel lancé aux groupes armés, comment a-t-il été accueilli?
Très bien, c'est plutôt positif parce qu'il y a une sorte d'engouement, il y en a qui veulent, qui se plaignent même pourquoi ils n'ont pas été conviés. Pour l'instant, il y en a un, il y a d'autres qui vont rejoindre Nairobi. Ils ont dit qu'ils voulaient participer à ce processus politique qu'il leur est proposé, cette main tendue du président. Donc certains disaient même être prêts déjà à rejoindre le programme PDDRCS et que c'est plutôt du côté de ce programme-là que les choses traînaient, que ça n'allait pas jusqu'au bout et tout ça. Donc on va dire que c'est plutôt positif et beaucoup disaient oui, nous avons combattu le régime passé. Cette fois-ci, on a vraiment envie que les choses puissent bien se passer, que nous puissions aussi participer au processus de développement ou de pacification de la RDC. Donc, espérons qu'il soit de bonne foi et que les choses se passent très bien.
Et la dernière question, ces consultations vont-elles aller jusqu'à quand?
Alors, ce n'est que la première phase qui vient de commencer à Nairobi. Déjà, à la fin de la semaine, je pense qu'on va d'abord arrêter ces consultations. Je crois qu'on aura rassembler assez d'éléments parce que, comme je vous l'avais dit, parmi les résolutions du sommet, il a été dit que le chef de l'État, quand il aura ce rapport-là de cette équipe d'experts, de cette facilitation-là, lui aussi devra aller le présenter, ce rapport donc à ses homologues, à ses pairs. Et donc il faudrait aussi appeler le président du Sud-Soudan et la présidente de la Tanzanie à rejoindre, parce qu'il n'était pas là lors du dernier sommet. Et il doit aussi présenter ça donc à ses homologues qui étaient présents pour voir les avancées, où est-ce qu'on en est et tout ça. Donc ce n'est qu'une première phase et il y a d'autres mécanismes qui existent. Parce que le but ici, c'est de dire à ces gens, c'est une reddition sans condition. Ils doivent déposer les armes et rejoindre le processus qui est mis en place par le gouvernement de la RDC. Voilà, on espère que tous vont vraiment nous rejoindre et que les choses vont aller très vite pour que nous puissions vraiment pacifier notre pays.
Madame Tina Salama, merci.
Merci à vous, Monsieur Pierre Lamy.
Tina Salama, porte-parole adjointe du chef de l'État, elle répondait aux questions de Pierrot et la Menji. Et c'est par ici que prend fin ce journal coordonné par Noéla Luzitu Kabambi sous la supervision de Martin Sebujangui et mis en onde par Polydor Basunga. Merci de l'avoir suivi.